quand on m'a proposé de faire cette prédication, j'ai dit oui tout de suite, avec enthousiasme, sans me rendre compte des nuits difficiles que j'allais passer par la suite. Mon grand-père était pasteur et j'ai beaucoup entendu ma grand-mère, ma mère et mes tantes parler de ces jours où, à partir du vendredi, il s'enfermait dans son bureau pour méditer et construire son prêche du dimanche suivant. C'était des moments difficiles pour la famille. S'enfermer, se forcer à passer de longues heures à travailler, attendre que l'inspiration vienne ou pas, cela aussi a été une partie de ma vie. Et comme lui, comme s'il m'avait silencieusement transmis cette injonction de creuser ma pensée, de ne pas abandonner quel que soit le résultat. Et c'est vrai que devant la page blanche, ou devant la page blanche que j'avais devant moi, devant vous parler, c'était la parabole du pêcheur, et toute ma vie, quand j'ai écrit aussi, c'était ça qui me venait, et qui me venait en aide, à savoir que le pêcheur va au bord de la rivière, il s'installe pour pêcher, mais il ne sait pas quand viendra le poisson, ni s'il viendra d'ailleurs, ni s'il sera capable de l'attraper, et ni si la pêche sera abondante ou maigrichonne, s'il rentrera chez lui bredouille ou pas, et bredouille pour combien de jours, de semaines, de mois, d'années, il ne sait rien. On ne sait rien, en fait, de ce qu'on va chercher quand on cherche. Mais tout de même, on sait une chose, ça on la sait très bien, une seule chose, c'est que si on ne va pas au bord de la rivière, on n'attrapera pas de poisson. Alors, je suis allée au bord de la rivière et j'ai pioché. Et je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas très bien pourquoi, l'inconscient est très fort hein, dans nos existences, mais c'était tout le temps l'histoire de Joseph qui me revenait en tête. Donc, j'avais envie de raconter cette histoire, d'essayer de comprendre pourquoi elle était si forte et pourquoi elle pourrait éventuellement nous toucher maintenant. C'était cette espèce de bénédiction divine, qu'on peut appeler divine pour ceux qui croient, cet amour pour l'enfant Joseph qu'il a reçu et qui causera aussi sa perte et sa gloire. Toute sa vie n'est qu'un paradoxe et retournement comme dans nos vies en fait. Donc l'origine de l'histoire de Joseph, c'est une assemblée protestante, je pense que tout le monde connaît très bien toutes ces histoires, mais c'est quand même intéressant des fois de les re-raconter autrement. Joseph est le fils de Jacob. Jacob lui-même était un homme assez rusé quand même. Hein. Il avait échangé son droit d'aînesse contre un plat de lentilles un jour que son frère revenait très très fatigué de la chasse et qu'il avait fait une bonne soupe. Il était affamé, il lui a proposé cette soupe de lentilles contre un droit d'aînesse. C'était vraiment peu de choses pour beaucoup de choses comme échange. Mais Jacob était intelligent. Et ensuite, il s'est fait donner la bénédiction paternelle à la place aussi de son frère, en se mettant des peaux de bête sur le corps, parce que son frère Ésaü était roux et velu, très très velu. Isaac, quand il a donné la bénédiction, il sentait bien qu'il y avait quelque chose dans la voix qui ne ressemblait pas à la voix d'Ésaü. Son fils Jacob lui a dit, mais si, mais vas-y, regarde, je suis velu. Il a senti, effectivement, donc il a donné la bénédiction à Jacob en pensant que c'était Ésaü. Jacob, c'était quand même un forfait, hein, ça. Et quand Ésaü s'est rendu compte de ce forfait, il était très très en colère. Jacob a dû s'enfuir, il est parti chez son oncle Laban, qui l'a recueilli. Là, il est arrivé, il y avait un puits, c'est souvent au bord des puits que, dans l'Ancien Testament, les gens tombent amoureux. Il a vu les filles de Laban, qui étaient là, qui puisaient de l'eau, dont deux filles, Laban avait deux filles, Léa, qui avait des yeux doux, et Rachel, qui était assez belle, même peut-être très belle. Et il est fou, tombé amoureux fou de Rachel. Alors il a demandé à Laban s'il pouvait épouser Rachel. Laban, qui était assez rusé aussi, lui a dit, mais bien sûr, mais il faudra que tu me serves pendant 7 ans avant d'avoir Rachel. Donc il a servi Laban pendant 7 ans, et c'était comme ensuite Joseph, c'était un très très bon gestionnaire, Jacob. Tout ce qui touchait prospérait. C'était peut-être à cause de Dieu. C'était aussi un homme intelligent. Il a servi 7 ans et ensuite il a eu enfin le droit d'épouser Rachel. Et le soir des noces, Laban, qui était aussi au moins aussi rusé que Jacob, au lieu de mettre sa fille Rachel dans le lit de son beau-fils, a mis sa fille aînée, Léa. Je pense que Jacob avait énormément bu, hein, parce qu'il ne s'en est absolument pas rendu compte, sinon le matin quand il avait dessoulé. Il s'est rendu compte que ce n'était pas Rachel qu'il avait honoré cette nuit-là, mais Léa. Alors il était furieux, il a dit à l'amant, je veux épouser celle que j'aime. Il a dit, ok, tu peux l'épouser, mais tu dois me servir encore 7 ans. Ce qui fait que Jacob a encore servi 7 ans, et a fait prospérer grandement les troupeaux et la richesse de Laban. Il faisait prospérer les troupeaux et les richesses de Laban et de lui aussi. C'est-à-dire qu'il avait tout un système pour faire mettre les brebis. Il avait dit à Laban, moi je garderai les brebis un petit peu colorées, toi tu garderas les brebis pures. Et lui faisait uniquement s'accoupler les brebis qui étaient colorées. Donc il avait beaucoup plus de brebis que Laban à l'arrivée de ses 20 ans, qui s'est occupé de ses affaires. Et ça a provoqué pas mal de conflits. Les frères de Laban étaient assez furieux et Jacob a dû s'enfuir à toute vitesse de chez son beau-père en emportant ses femmes et ses enfants. Parce qu'il faut dire que il aimait Rachel, il n'aimait pas Léa, mais Dieu a pensé que c'était pas très juste. Donc il a rendu Léa extrêmement féconde et Rachel stérile. Ce qui fait que il y avait aussi des histoires de... On pouvait donner ses servantes, hein, c'était vraiment pas le moment mariage, hein, c'était le polymariage. Donc, enfin bref, il a quand même eu 10 enfants, et il est parti de chez Laban avec tous ses enfants. C'était assez difficile pour Laban qui a voulu le poursuivre et récupérer ses filles et ses biens et ses petits-enfants, mais Jacob, très diplomate, très intelligent toujours, a réussi, par la ruse et par certains cadeaux, à apaiser Laban. Mais il se trouvait devant un autre problème en rentrant chez lui. Jacob, c'est qu'il fallait qu'il affronte Ésaü, qu'il avait largement trompé aussi. Donc là aussi, il a envoyé d'abord des tas de serviteurs avec des tas de cadeaux pour apaiser Ésaü. Et ce qui s'est fait, ils sont quand même tombés dans les bras l'un de l'autre en pleurant, en se retrouvant. Alors ensuite, il s'est établi dans des terres qui étaient bonnes, dans ce pays-là qui était le sien. Et sa femme Rachel, Dieu a pensé à elle et il s'est dit, il faut quand même qu'elle ait un enfant. Et alors qu'elle était vraiment, le croyant ne plus pouvoir jamais donner la vie, elle tombe enceinte. Elle tombe enceinte. Comme si les barrières physiques, en fait, n'avaient jamais existé et qu'elles n'étaient qu'intérieures, ces barrières, et qu'elles étaient tout d'un coup tombées. Alors elle donne naissance à Joseph. Joseph, en hébreu, veut dire celui qui a enlevé la honte. C'est-à-dire qui a enlevé la honte de ne pas pouvoir enfanter. Et elle demande à Yahvé de lui donner ensuite un autre fils. Plus tard, après bien du temps, Rachel tombe encore enceinte du dernier enfant de Jacob, Benjamin, mais elle meurt en lui donnant naissance. À partir du moment où Joseph est né, Jacob se désintéresse de ses autres enfants, s'en désintéresse, disons, enfin affectivement en tout cas. Joseph est l'enfant de la femme qu'il aime, qu'il n'a jamais cessé d'aimer. Et à cet instant, ces 10 enfants, nés de femmes moins aimées, perdent leur importance. Il y a un très beau vers de Victor Hugo qui décrit l'amour maternel et qui dit « Chacun en a sa part et tous l'ont tout entier ». Eh bien, ce vers ne s'est pas appliqué à l'amour paternel en ce qui concerne, en tout cas, Jacob. Il y avait des préférences. Il y a des préférences dans les familles. Et là se trouve souvent l'origine de beaucoup de guerres. Et là aussi commencent les ennuis et la gloire de Joseph. C'est-à-dire que Jacob, le préférant, les autres souffrent. Il offre à Joseph une tunique colorée. Les autres sont jaloux. La haine s'installe, grandit. Et Joseph, en plus, est un rêveur. Il rêve, il fait des rêves importants qui, en fait, sont souvent prémonitoires de l'avenir. Et il sait les interpréter. Et voilà qu'il fait 2 rêves différents, mais qui prédisent la même chose. D'abord, il voit des gerbes, 11 gerbes de blé, comme ses 11 frères, se prosterner devant lui. Puis, il fait un autre rêve où il voit le soleil, la lune et 11 étoiles se prosterner aussi devant lui, c'est-à-dire le père, la mère et les frères. Il raconte ses rêves à ses frères et les interprète correctement, c'est-à-dire que plus tard, ils vont probablement se prosterner devant lui. Mais là, c'est l'explosion de jalousie et de haine chez les frères. Et même son père est fâché qu'il qu'il raconte ses rêves comme cela. Il le lui reproche. Il dit que c'est une attitude arrogante. Et on peut aussi interpréter cela par le fait que, parce que plus tard, Joseph va interpréter des rêves qui auront à voir avec la collectivité, avec tout le monde, qui seront des rêves pour sauver une nation. Alors que là, c'est un rêve qui ne parle que de lui et de son individu. C'est un rêve d'arrogance, je dirais. Et c'est celui qui va vraiment lui causer le plus de problèmes. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, ses frères en ont vraiment assez et décident de le supprimer. Il va les rejoindre dans le désert, là où ils sont en train de faire paître les troupeaux. Ils veulent l'assassiner. Ruben, le fils aîné, s'y oppose. Ils le jettent dans une citerne et puis finalement, ils le vendent à des marchands qui passent par là, qui l'achètent comme esclave. Et ils prennent sa tunique, parce que le père avait donc offert une très très belle tunique à Joseph. Ils la déchirent et ils mettent du sang d'animal dessus. Comme ça, ils rentrent à la maison et disent à Jacob que son fils a été dévoré par une bête féroce et que sa tunique a été déchirée. Donc ça, c'est vraiment les problèmes durs de Joseph. Il est vendu en Égypte à un homme qui s'appelle Potiphar, qui est un riche marchand aussi. Et Joseph, lui aussi, est comme son père, très très bon gestionnaire. Et petit à petit, il donne des conseils à Potiphar, il s'occupe des affaires de Potiphar, il s'en occupe très bien. Les affaires de Potiphar prospèrent énormément. Et la femme de Potiphar, Joseph, était probablement assez beau, en tout cas il était jeune, les jeunes sont toujours assez beaux. Et la femme de Potiphar tombe amoureuse de Joseph. Et elle lui fait des avances qu'il refuse parce qu'il a une très forte éthique et il refuse de la connaître, enfin voilà, disons, par ces temps en ce moment extrêmement violents sur le plan sexuel, nous allons parler de façon très biblique, il refuse de la connaître. Et elle insiste, et puis il lui dit que non, décidément, non, il ne veut pas. Et il s'enfuit, elle lui arrache sa tunique, et là, grosse trahison, elle hurle, et quand Potiphar arrive, elle accuse Joseph de n'avoir voulu la violer. Alors Potiphar est furieux, Joseph ne peut absolument pas se défendre, il n'est qu'un esclave. Il est mis en prison. Là, en prison, il est... Il y a un petit paragraphe dans la Bible qui souvent n'est pas lu, mais qui est très intéressant, où on dit que quasiment dès son arrivée, il se lie d'amitié avec le directeur de la prison, et au bout de quelques mois, c'est lui qui gère la prison. Il la gère très bien, c'est-à-dire il organise tout dans la prison, et l'autre se repose comme Laban s'est reposé avec Jacob, comme Potiphar s'est reposé avec Joseph. C'était des travailleurs, des gens qui savaient bien mener des affaires, quoi. Donc il dirige plus ou moins la prison, mais enfin il est quand même en prison. Et il partage sa cellule avec deux personnes, le grand échanson du pharaon et le panetier du pharaon, celui qui faisait le pain et celui qui s'occupait du vin. Et ces deux hommes avaient été mis en quarantaine par le pharaon parce qu'ils avaient fait des malhonnêtetés probablement. Et voilà qu'ils font tous les deux aussi des rêves. Le panetier rêve que... Il porte des corbeilles de pain sur la tête et que des oiseaux viennent manger ces corbeilles de pain sur sa tête. Trois corbeilles de pain et des oiseaux qui viennent manger ces corbeilles sur sa tête, manger le pain. Le grand échanson, lui, rêve que... il voit un cep de vigne avec trois sarments magnifiques dont il presse les raisins et qui tombe dans une coupe et il va servir cette coupe au pharaon. Et tout de suite, Joseph comprend la signification de ses rêves. Il dit, malheureusement, toi le panetier, tu vas être pendu et les oiseaux mangeront dans ta tête dans trois jours, parce que c'est trois corbeilles. Et toi, grand échanson, dans trois jours, tu seras libéré et tu redeviendras le grand échanson du pharaon et tu lui serviras des coupes de vin. Et c'est effectivement ce qui se passe. Les prédictions et la compréhension de Joseph se réalisent. Et avant de quitter la prison, Joseph dit au grand échanson, s'il te plaît, quand tu vas voir le pharaon, s'il te plaît, dis-lui un mot en ma faveur, dis-lui que tu as connu quelqu'un et qu'il n'avait pas fait du mal, parce que j'aimerais bien qu'on n'oublie pas dans cette prison, bien que je la dirige, mais quand même, je voudrais bien en sortir. Et le grand échanson arrive chez le pharaon et bien entendu oublie totalement de parler de Joseph au pharaon. Trahison encore une. Et puis, un jour, le pharaon fait un rêve, deux rêves, c'est toujours par deux les rêves dans cette histoire, très importants, qui sont les rêves que vous connaissez tous, des vaches maigres et des gerbes de blé aussi. Donc, le premier rêve est des vaches très grasses, très belles, sortent du Nil, sept vaches très belles, qui sont suivies par sept vaches très, très, très maigres, qui dévorent les vaches grasses, et qui reste maigre. Et puis, il y a aussi des très très belles gerbes de blé, sept belles gerbes de blé, avec des grains dorés, gonflés, pleins de nourriture. Et elles sont, ces gerbes, dévorées par des gerbes malades, chétives, qui les mangent, et qui ne deviennent pas pour autant belles et saines. Et le pharaon fait ses rêves, il sent que c'est un rêve important, il sent que ce sont des rêves importants. Il réunit tous ses sages, tous les gens qui sont autour de lui, pour qu'ils interprètent ses rêves, et personne n'y parvient. Et à ce moment-là, les rêves avaient une grande importance dans ces civilisations. Et tout d'un coup, le grand échanson se dit, ouais, mais je connais un gars qui interprète les rêves. Donc il dit au pharaon, je connais un type en prison, il est en prison, il faudrait le faire sortir de prison, peut-être qu'il arrivera à interpréter vos rêves. Alors ils font sortir Joseph de la prison, et Joseph, le pharaon lui raconte les rêves, et Joseph lui dit, oui, ce seront sept années de magnifiques récoltes, d'abondance totale dans le pays d'Égypte, qui seront suivies de sept années sans aucune récolte, avec une famine terrible. Et si vous voulez mon avis, encore un très très bon gestionnaire, pendant ces sept ans, prenez une partie des récoltes, sauvez-la, mettez-les à l'abri et faites de l'épargne pour quand ça ira mal. Et le pharaon comprend que c'est ça, parce qu'entre sa prémonition et cette interprétation, il y a une telle concordance qu'il le comprend. Et à ce moment-là, il dit à Joseph, il comprend que Joseph aussi est super intelligent, et lui dit, c'est toi qui vas gérer ça. Donc à partir de là, pendant sept ans, Joseph arpente l'Égypte et exige de tout le monde et de toutes les villes, tous les villages, tous les paysans, tout le monde, qu'un cinquième de leur production soit gardé pour les vaches maigres, pour les mamans de vaches maigres. Et c'est ce qui se passe au bout de sept ans, famine, et qui dure sept ans. Et dans cette famine, l'Égypte reste prospère parce qu'elle a énormément de réserves. Et moi, ce qui m'a intéressé dans ces deux, justement, les deux rêves, le premier rêve où il parle de son destin individuel et ce rêve-là, c'est que il a interprété un rêve qui allait avoir un impact sur la société. Il a été un grand politique. Il a compris les évolutions possibles. Et c'est le premier geste d'épargne, je dirais presque bancaire, enfin là c'était pas bancaire, mais d'intelligence du futur, de prévision. Et ce qui est intéressant aussi, si on creuse cette histoire de prévision et des vaches maigres, c'est qu'aussi ça correspond à notre destin personnel, même individuel. C'est-à-dire que on peut dire qu'on va toujours vers les vaches maigres quelque part. On est jeune, on a tout depuis la naissance. On a la beauté, la jeunesse, l'espoir, la force. Et la vie consiste finalement à sans cesse perdre tout ça. La vie n'est qu'une perte permanente de la jeunesse, des gens qu'on aime, qui vous entourent. On rencontre de plus en plus de morts et de deuil. Et l'intelligence consiste justement à ne pas considérer ça comme des pertes, mais à engranger, quand on le peut encore, quand on est jeune, et quand on a encore l'intelligence de voir que ça ne sera pas toujours comme ça, engranger un certain nombre de biens qui sont matériels et immatériels, et surtout immatériels, pour pouvoir supporter les moments de vache maigre, et que c'est que ces vaches maigres se transforment en prospérité et que la fin de la vie ne soit pas une tragédie. Voilà. Alors ça, c'était la manière. Enfin, ce qui m'intéressait vraiment dans ce rêve, c'était ce côté. Et c'est celui-là qui apporte la prospérité à Joseph. C'est quand il pense à la collectivité et pas seulement à lui. Alors, à propos de la vieillesse, je voudrais vous lire un discours magnifique et à propos des retraites. De Jean Jaurès, du 8 février 1910, sur les retraites. Aujourd'hui, quand l'ouvrier de 40 ans voit passer à côté de lui un vieux de 60 ans sans abri, sans travail, sans retraite, mendiant, importun et méprisé, tout à coup, même à pleine force, et surtout, si sa force commence à déchoir, il se voit d'avance comme dans un miroir sinistre, dans la figure flétrie de ce pauvre homme, et il se dit « C'est comme cela que je serai dans quelques années. » Et il y a vers lui un reflux d'abjection. Dès demain, si vous le voulez, par le vote immédiat de la loi, et par l'effort d'amélioration que nous ferons tout de suite dès demain, tous les vieux relèveront la tête, le front, et tous les jeunes, tous les hommes mûrs se diront du moins que la vie, que la fin de la vie ne sera pas pour eux le fossé où se couche la bête aux abois. À méditer en ce moment, hein, vraiment. Alors ensuite, donc. Joseph fait prospérer largement l'Égypte, qui devient un pays très riche, et lui-même devient complètement le bras droit du pharaon. Là-bas, dans sa famille, son père et ses frères éprouvent une famine terrible, et donc ils sont obligés de venir quémander au pharaon, de lui vendre des graines et de quoi survivre. Et c'est là, et celui qui est chargé de les leur donner, ben c'est Joseph, celui qu'ils ont assassiné quand il était adolescent. Alors, après, bon, je vous laisse lire la fin de l'histoire, qui est très belle aussi, où Joseph se cache derrière une tenture pour pleurer quand il voit ses frères arriver. Mais il leur donne des richesses, il les comble de richesses, il revoit son père, il revoit son petit frère Benjamin qui est né donc de Rachel. Voilà. Je voulais juste conclure sur cette histoire en disant que je ne parle pas de Dieu parce que je ne suis pas pasteur, et puis parce que j'ai une autre approche de la spiritualité et du divin que celle que proposent les grandes religions monothéistes et patriarcales. Les religions polythéistes étant d'ailleurs tout à fait aussi patriarcales, hein. Mais il est évident que le destin de Joseph est celui d'un choisi, par qui, je ne sais pas, mais en tout cas par quelqu'un qui nous donne des conseils de vie en nous racontant cette histoire.